Chers amis, si certains d'entre vous se sentent trop loin, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça a tous les avantages. Donc surtout, n'ayez pas peur de vous avancer. Je vous promets que je ne vous mangerai pas. Nous allons introduire notre beau sujet, choisir Dieu dans un monde moderne, par quelques lectures dans l'Ancien Testament. Nous allons faire une première lecture dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 5. Et je vous encourage, si vous avez votre Bible avec vous, à l'utiliser, éventuellement à prendre ici et là quelques notes, quelques points de jalons durant ces études. Jérémie, chapitre 5, les versets 15 à 19. Jérémie 5, versets 15 à 19. C'est Dieu qui parle et qui dit, « Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais, en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. » Au chapitre 6, un peu plus loin, au verset 22, chapitre 6, versets 22 à 25, toujours la même idée, le même message, « Ainsi parle l'Éternel, voici un peuple » vient du pays du septentrion, du nord, par rapport à Israël, une grande nation se lève des extrémités de la terre, ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer, ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme, contre toi, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. » Et enfin, nous arrivons à notre livre de Daniel, qui va servir de tremplin à notre réflexion. Daniel, chapitre 1er, nous lisons les 7 premiers versets de ce livre, donc chapitre 1er, les 7 premiers versets. Je lis au chapitre 1er, verset 1, « La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Hanania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Quelques petites indications d'ordre tout à fait pratique avant d'entrer dans le vif de ce grand sujet. La première pour signaler d'emblée que, comme cette série de réflexions existe en 9 étapes, d'1 h 15 en moyenne, nous avons pris la décision cette semaine de traiter ce thème, choisir Dieu dans un monde moderne, non pas en un week-end, mais en 2. Nous aurons 4 études comme prévu, suivant les indications qui figurent sur les petits papillons, d'ici dimanche après-midi, aux horaires habituels, rien ne change. Mais simplement, quand nous arriverons à l'issue de notre 4e étude dimanche après-midi, nous n'aurons fait que la moitié du parcours. Et nous aurons un deuxième week-end, structuré exactement de la même manière que celui-ci, normalement, Dieu voulant, qui, normalement aussi, est prévu les premiers 2 et 3 mars de l'année prochaine. Ce n'est donc pas trop loin dans le temps, ça nous laisse le temps de digérer ce que nous aurons partagé, et puis je rappellerai donc le 1er mars, Dieu voulant, dans la première étude, ce que nous aurons vu durant ces 4 études de ce week-end. Voici donc une première annonce préalable. La deuxième, dans un sens, va d'elle-même. C'est une série. Ce qui signifie que jusqu'à un certain point, aucune étude n'a la prétention d'être en quelque sorte complète en elle-même. Vous allez vous rendre ce soir compte, à la fin de l'étude, que nous aurons comme une porte ouverte en vue de l'étude de demain et ainsi de suite. Le sujet le veut, cela ne veut pas dire que quiconque d'entre vous ne pourrait pas venir demain et dimanche ou ne pourrait participer qu'à 2 ou 3 des 4 rencontres serait totalement pénalisé. Je crois que Dieu est capable de nous parler dès ce soir. Ce n'est pas là le problème. Mais ce que je veux souligner simplement, c'est que nous allons, d'ici dimanche après-midi et début mars, construire un ensemble, pierre après pierre. Et nous aurons vraiment une vision d'ensemble du thème lorsque nous arriverons au bout. Je préfère vous l'annoncer dès maintenant, d'une part parce que cela peut aussi vous aiguillonner, vous stimuler quant au désir de suivre le maximum des études, celles que vous ne pourrez pas exceptionnellement suivre, pouvant être ensuite vues ou entendues par le biais de l'enregistrement sur cassette. Enfin, comment allons-nous procéder par rapport au thème « Choisir Dieu dans un monde moderne » ? Nous allons l'étudier par la fin, ce titre. Choisir Dieu dans un monde moderne. En réalité, nous allons consacrer l'étude de ce soir et celle de demain soir, en tout cas en partie au moins, à la fin du titre. Dans un monde moderne. Ensuite, nous verrons le petit mot Dieu. Bien entendu, toujours dans le cadre, notamment du livre de Daniel. Ce Dieu-là n'a pas changé, sinon nous n'aurions pas lieu de nous réunir ce soir. Et puis enfin, ce qui nous intéressera beaucoup, c'est le mot « choisir ». cet infinitif qui va devenir pour nous un impératif. Choisis, choisissez. Et nous aurons, dans l'histoire de Daniel, et puis d'autres personnages, des indications bien précises, très concrètes, d'ordre très pratique, pour que nous comprenions bien ce que signifie choisir. D'une part, pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait le choix, parce qu'il faut que ça commence un jour dans nos vies, nous devons faire un choix. C'est fondamental. On n'a pas le droit de se promener dans l'existence sans faire des choix quand ils regardent non seulement notre présent, mais aussi notre éternité. Mais au-delà de ce choix solennel, fondamental, salutaire ou terrible dans ses conséquences de condamnation pour celui qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ et le Dieu de Jésus-Christ, il y a aussi des choix bien particuliers et cruciaux, à conséquences importantes, à moyen et long terme, pour ceux et celles qui connaissent déjà Jésus-Christ, qui l'ont choisi un jour. Donc nous sommes absolument tous concernés par le thème que nous commençons à étudier ce soir. Nous allons commencer par brosser une sorte de tableau, de panorama historique. Peut-être n'aimez-vous pas l'histoire et la géographie. Nous allons essayer de l'aimer ensemble ce soir. Parce qu'on ne peut pas se pencher sur certains livres des Écritures sans être interpellé au niveau de leur contexte historique. C'est important de d'abord situer l'ambiance, le contexte historique et géographique dans lequel évoluent des personnages. Parce que ça va nous aider d'autant mieux à comprendre pourquoi ils ont réagi de telle ou telle manière, les problèmes auxquels ils ont été confrontés, ce qui aurait pu modifier leur choix. Et puis, comme vous le verrez, le message biblique a ceci de particulier, c'est qu'il est très actuel. Il est plus actuel que les nouvelles qui vont sortir par les journaux de demain s'ils ne sont pas en grève. C'est peu dire, hein? Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est de souligner que nous allons partir de récits qui se situent à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ et au 6e siècle avant Jésus-Christ pour évoquer un monde moderne, pour évoquer le monde dans lequel nous sommes. Et nous n'aurons pas besoin de faire des pirouettes, des gesticulations, de la magouille avec des textes bibliques. Nous allons voir qu'il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ces textes anciens collent de manière absolument remarquable avec nos situations modernes. Et c'est pour cela que Dieu nous les a donnés. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole. Précisément parce que sa parole est, comme on le dit, même si elle s'incarne dans des cultures, et en particulier dans la culture d'un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, la Bible a un message qui est transculturel. Et ce message que nous partageons durant ces soirées, les dimanches et au mois de mars, c'est un message que je partage dans d'autres pays du monde, sous d'autres latitudes. Je l'adapte un petit peu dans sa forme. Il est évident que je ne peux pas parler de neige quand je suis en Afrique, dans certains pays d'Afrique en tout cas, mais ça, ce sont des adaptations qui se comprennent. Mais je n'ai pas besoin de toucher la moelle du message. Chacun peut très bien le comprendre, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine, quelle que soit son éducation, le milieu dans lequel il a vécu, etc. Ça, c'est aussi l'aspect révolutionnaire du message de la Bible. Enfin, la dernière remarque introductive sera pour souligner que nous allons curieusement, apparemment, piétiner dans le chapitre premier du livre de Daniel. Non pas que les autres chapitres ne nous intéressent pas, bien au contraire, puisque le chapitre premier va nous permettre de temps en temps d'envoyer des fusées dans les autres chapitres. Nous toucherons à un certain nombre de passages des 6 premiers chapitres et des chapitres de la fin du livre de Daniel. Nous y ferons allusion, nous en prendrons quelques-uns ici et là. Mais ce sera vraiment Daniel, chapitre 1er, qui sera notre plateforme de travail. À partir d'elle, nous allons rayonner. Et si nous procédons ainsi, c'est aussi parce que si Daniel 1 n'avait pas existé, le livre de Daniel n'aurait pas existé. Et nous verrons pourquoi, ensemble. Donc nous avons en germe, dans le chapitre 1er, toute la suite, en quelque sorte, du livre de Daniel, pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas développer maintenant. Alors, comme je l'annonçais il y a un court instant, nous allons ce soir commencer à nous pencher sur une réflexion que nous pourrions intituler de cette manière, c'est très simple, « Babylone d'hier et Babylone d'aujourd'hui ». Je ne dis pas que nous allons évoquer la Babylone d'aujourd'hui ce soir, mais c'est vers elle que nous allons. Mais commençons par évoquer la Babylone d'hier. Au moment où commence le livre de Daniel, au chapitre 1er et au verset 1er, ça c'est une indication que vous pouvez mettre même en marge du texte, dans votre Bible. Les Bibles sont faites pour être annotées. C'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que nos annotations sont aspirées, mais on essaye de faire le maximum pour qu'elles soient exactes, n'est-ce pas? Et vous pouvez mettre une date. Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ. Une date que vous voyez indiquée sur ce petit tableau à deux reprises. J'ai résumé quelques dates importantes pour que vous puissiez mieux les retenir, mieux les noter. N'ayez crainte, nous n'allons pas en ajouter des sommes, des quantités. Vous ne partirez pas avec une indigestion dans ce domaine. Mais vous allez comprendre pourquoi elles sont importantes pour préparer la suite de notre réflexion. Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ. Peut-être ici une toute petite remarque. Si vous avez envie de travailler, de lire des commentaires, de vraiment creuser le sujet, ne soyez pas troublés lorsque vous constatez que certains commentaires par ailleurs excellents, et il en existe plusieurs sur le livre de Daniel, moi j'en ai 5 ou 6 ou 6 ou 7 dans ma propre bibliothèque personnelle, vous constaterez que certains commentateurs mettront ici la date de 606. Généralement, pour un certain nombre de dates de cette époque, il peut y avoir une année de décalage. Personnellement, je considère que 605 est une date assez sûre. Je ne vais pas entrer ce soir dans des considérations techniques. Je veux dire par là que dans certains cas, il y a des différences qui ne sont pas liées à des différences dans le temps. Il n'y a pas forcément une année d'intervalle lorsque quelqu'un dit 606 et l'autre dit 605. Parfois, ce sont simplement des différences de calendrier. Et sans entrer dans aucun détail, il faut que vous sachiez simplement ceci. C'est que le même événement dans la Bible, par exemple Daniel chapitre 1, verset 1er, la troisième année du règne de Joachim. Vous avez là une date. Troisième année du règne de Joachim. Nous pourrions prendre un texte dans Jérémie qui évoque un événement qui se situe très étroitement lié à ce qui s'est passé là en 605 et qui est curieusement daté de la quatrième année de Joachim. Alors rassurez-vous, ce ne sont pas des contradictions. Mais il se trouve que, à cette époque, on utilisait deux calendriers. Il y avait un calendrier qui commençait au printemps et qui était le calendrier religieux. Généralement, il commençait au niveau du mois de mars-avril. Et vous aviez un autre calendrier officiel qui, lui, commençait au mois d'octobre. Et il se trouve que, suivant les auteurs, suivant l'endroit où se situent les auteurs, les rédacteurs, suivant les gens auxquels ils s'adressent en premier lieu, ils vont utiliser soit le calendrier du printemps, soit le calendrier de l'automne. Vous comprenez ? Et cela provoque des décalages. Je ne dis rien de plus à ce sujet, mais simplement, il est bon que vous ayez la puce à l'oreille pour ne pas vous laisser troubler lorsque vous voyez qu'un même événement, parfois, peut être daté apparemment à une année d'intervalle. Ce sont des questions de calendrier. Calendrier juif, calendrier païen, par exemple. Voyez. Mais je n'en dis pas plus. Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ. Et en 605 avant Jésus-Christ, un nouvel empire est en train de monter comme le soleil à son zénith. Cet empire s'appelle l'empire chaldéen. On l'appelle aussi empire néo-babylonien, tout simplement parce qu'il y avait dans toute cette région qui va beaucoup nous intéresser, 1000 ans auparavant déjà, une civilisation très importante qui avait été gouvernée par toutes sortes de rois étrangers. Et puis, à une certaine période, a démarré, si vous voulez, une nouvelle dynastie. Et c'est pour cela qu'on appelle cet empire aussi néo-babylonien. Cet empire néo-babylonien a été fondé par le père de Nebuchadnezzar, dont nous allons parler. Nebuchadnezzar. Il est mentionné là, c'est celui qu'on appelle parfois aussi Nabucodonosor, là aussi ce sont simplement des questions de traduction, de l'hébreu ça importe peu pour nous. Et il est là au verset premier, et Nebuchadnezzar vient de remporter une grande victoire militaire sur le pharaon. Sur un pharaon d'ailleurs dont il est question dans la Bible, qui s'appelle le pharaon Nécho. Mais cette victoire, Nebuchadnezzar ne l'a pas remportée en Égypte, mais il l'a remportée en Assyrie, si vous voulez. Ceux qui connaissent un peu les Écritures, j'ai là un tableau sur lequel vous pourrez, si vous voulez, tout à l'heure, à la fin de l'étude, venir chercher des noms, si ça vous intéresse. Vous pouvez même venir vers moi et je vous les pointerai pour que vous compreniez bien. Lorsqu'Abraham a quitté Ur en Chaldée, en Mésopotamie, il est monté vers le nord à Charan. Et de Charan, il est redescendu vers ce qui est devenu la terre promise. Eh bien, Carchemish, où a eu lieu cette grande bataille, un des grands tournants de l'histoire antique, Carchemish se trouve là, à proximité de Charan, dans ce qui était un petit peu la Syrie de l'époque, sur la rive droite de l'Euphrate, ce grand fleuve. C'est une victoire importante, parce que la puissance égyptienne vient d'être brisée. Elle n'est pas encore morte, elle n'est pas encore éteinte, elle va encore jouer un certain rôle, mais bientôt, en 568 avant Jésus-Christ, parce qu'on va vers l'année zéro, si vous voulez, l'empire égyptien sera finalement carrément envahi par Babylone. Donc, un événement très important qui a eu lieu en mai-juin 605 avant Jésus-Christ. Quelques mots de son papa, à Nebuchadnezzar. Son papa s'appelait Nabopolassar. Vous allez faire des mauvais rêves cette nuit avec tous ces noms un peu compliqués. Mais Nabopolassar est intéressant parce qu'il avait lui aussi guerroyé et il avait inscrit à son palmarès une grande victoire, très importante au niveau militaire et politique, en 612 avant Jésus-Christ. Elle est là, vous la voyez, 612. En détruisant la ville de Ninive, capitale de cet empire impressionnant qui a fait bien des soucis à Israël. Vous connaissez notamment l'histoire de Jonas, hein, qui est allé à Ninive. Vous avez un petit livre dans l'Ancien Testament qui traite en particulier de Ninive, le petit prophète Nahum, n'est-ce pas ? Et donc, en 612 avant Jésus-Christ, Nabopolassar avait détruit Ninive. Mais maintenant, le papa de Nebuchadnezzar est âgé, il a pas mal travaillé, il a travaillé dans la ville de Babylone, il a pas mal construit, mais il est souffrant et il va mourir. Il va mourir en 605, donc toujours dans cette même année 605, il va mourir, on pense actuellement très exactement, le 15 août 605. Il aura régné 20 ans. Et peu de temps après, le 6 septembre 605, Nebuchadnezzar sera couronné roi, officiellement, et il va commencer, ou va commencer avec lui, un des règnes les plus longs et les plus brillants de l'histoire. D'ailleurs, au point que, et dans Daniel 2, 37, ou encore dans Ézéchiel 26, verset 7, Nebuchadnezzar sera appelé le roi des rois. Roi des rois, un grand titre, très important. Et il va finalement régner plus de 43 ans jusqu'en 562 avant Jésus-Christ. Vous avez là les dates, hein, en bas. Date de sa mort. Plus de 43 ans. Un des règnes donc les plus longs et les plus brillants de l'histoire. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ceci ? Simplement pour que tout d'abord nous réalisions une chose, c'est que l'histoire de Daniel commence à une époque particulièrement cruciale dans l'histoire du monde, dans ce qu'on appelle le domaine de la géopolitique, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Il y a en quelque sorte une redistribution des cartes. La géographie politique est redécoupée et refaite. C'est une époque de grands bouleversements internationaux. Et vous voyez d'emblée pointer le bout de son nez aux problèmes actuels. Nous sommes, nous aussi, aujourd'hui comme jamais dans l'histoire, et depuis très peu d'années, dans une période de grands bouleversements internationaux. Il y avait eu la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ensuite il y a eu des conflits ici et là, sans arrêt, à la surface du globe, mais vous savez que depuis quelques années, il y a eu des changements impressionnants qui conduisent d'ailleurs les élèves dans les collèges, les lycées et les étudiants à devoir reconsidérer un tas de choses. On est obligé de refaire maintenant des livres d'histoire, des livres de géographie à cause de pays qui ont retrouvé leur place, certains avec beaucoup de souffrance, certains n'ont même pas encore tout à fait retrouvé une place légitime dans l'histoire. Vous voyez tout ce que cela peut vouloir dire. Donc il y a là déjà un point commun qui est très intéressant entre l'époque de Daniel et notre époque aujourd'hui. La deuxième remarque est pour souligner que ce qui est très intéressant, et ça nous allons en avoir confirmation, c'est que Dieu sait toujours se susciter des témoins fidèles aux heures particulièrement stratégique de l'histoire des hommes, même aux heures particulièrement sombres de l'histoire des hommes. Nous allons parler de la souveraineté de Dieu, du Dieu merveilleusement souverain. Et le livre de Daniel est un livre très centré sur cette question du Dieu souverain qui dirige les événements de l'histoire humaine. Et ce qui est bienfaisant, c'est de voir combien ce Dieu a ses témoins. En particulier des témoins d'envergure pour les heures cruciales de son histoire. Je pense à toute l'époque qui a été celle de la Réforme. L'époque de la Réforme a été aussi une époque, vous le savez, de grands bouleversements dans le monde. Et de grands bouleversements aussi en matière de grandes découvertes dans toutes sortes de domaines. Il y a eu une sorte d'aube des temps nouveaux avec la réforme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu, à cette époque, s'est aussi suscité des témoins particuliers qui ont beaucoup marqué certains pays de notre monde. Nous aurions pu penser au 15e siècle avant Jésus-Christ, 14e siècle avant Jésus-Christ, l'époque de Moïse, par exemple, où l'écriture va jouer un rôle énorme dans l'histoire, et où Moïse va dans ce domaine aussi jouer un rôle énorme de la part de Dieu au moment où on peut rédiger beaucoup plus facilement qu'avant sur, disons, des documents qui prennent moins de place, qui deviennent des documents transportables, alors que jusque-là, c'était bien difficile. Quand vous deviez transporter des tablettes, vous imaginez ce que représentait une bibliothèque quand elle était composée de tablettes d'argile très fragiles, avec leurs petites indications dans l'argile, ces indications cunéiformes, cette écriture en coin qui était très courante à l'époque de Babylone, par exemple. Là, une première remarque ou deux premières remarques importantes. Alors, dans Daniel 1, il est dit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, verset 1er, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Alors, on sait, là aussi, très bien le contexte de cette marche contre Jérusalem. Il se trouve que quand Nebuchadnezzar a remporté sa victoire là-haut au nord, à Carchemish, les Égyptiens, bien sûr, se sont enfuis, puis ils sont repartis chez eux à toute allure, n'est-ce pas? Et Nebuchadnezzar a simplement poursuivi les Égyptiens pour accentuer en quelque sorte la défaite, et il passe, bien entendu, par la grande route des invasions, qui était aussi la voie des caravanes, la voie du commerce de cette époque, le long de la côte. Toute la côte phénicienne, qui est celle du Liban actuel, et puis, bien sûr, de l'Israël actuel, pour aller vers le delta du Nil et vers l'Égypte. Et bien entendu, comme toujours, les peuples qui se situaient sur ces voies importantes, que ce soit commerciales ou militaires, étaient les peuples qui avaient le plus à souffrir. C'était le problème d'Israël. Et donc, au passage, Nebuchadnezzar, eh bien, il s'intéresse à Jérusalem, d'autant plus que Jérusalem avait flirté pas mal dans le passé avec l'Égypte. Donc il veut mettre Jérusalem en quelque sorte dans sa poche. Et nous avons là ce que j'appelle D1 sur mon tableau 605, déportation numéro 1. Quelques enfants d'Israël, de race royale, ou de famille noble, nous dit le verset 3, et vous verrez combien c'est important cette petite remarque, elle va nous permettre de découvrir des choses très intéressantes d'ici dimanche. Et donc de ces enfants de race royale ou de famille noble, destinés à servir comme hauts fonctionnaires du grand empire. Et il y a dans ces enfants d'Israël 4 jeunes gens dont nous connaissons les noms, et au milieu d'eux, l'un d'entre eux, qui va, nous le verrons, un peu servir de locomotive, il va être un meneur, il aura aussi un rôle tout à fait particulier dans toute la suite de l'histoire de Babylone, mais il va d'abord être aussi vraiment un conducteur, un aîné, le futur, donc, grand administrateur, mais aussi prophète de l'Éternel, Daniel. Vous trouverez des indications sur cette déportation dans 2 Chroniques 36, versets 5 à 7, pour ceux qui veulent le noter. 2 Chroniques 36, versets 5 à 7. Avec Daniel et ses compagnons, un roi devait être déporté, c'est le roi Joachim, avec un M au bout. C'est important parce qu'il y en aura un autre avec un N au bout. Pour le moment, c'est Joachim qui devait partir, mais d'après le prophète Jérémie, au chapitre 22 et au chapitre 36, il semble qu'il ne soit pas parti, finalement. Et probablement n'est-il pas parti, est-il resté à Jérusalem, il semble avoir échappé de peu à la déportation à cause du décès, très certainement, du papa de Nebuchadnezzar, qui a obligé Nebuchadnezzar à rejoindre précipitamment Babylone pour les funérailles et pour être intronisé successeur, en quelque sorte, de son père. Mais nous savons par Jérémie 22, 19 et 36, 30 que Joachim est mort tout à fait misérable à Jérusalem, vraiment de manière misérable à Jérusalem. Pendant cette courte déportation, ou associée à cette courte déportation, il faut savoir simplement, donc, que le texte dit que le temple a été vidé d'une partie de ses trésors. Hein, vous avez remarqué, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. C'est une petite indication intéressante, une partie, parce qu'il y a un autre texte qui dira que dans les autres déportations, notamment la dernière, c'est la totalité de ce qui restait qui va être ôté. On pense que Nebuchadnezzar, en bon politicien, n'a pas voulu être trop sévère. Comme souvent, il savait, dans certaines situations, être diplomate, de manière à quand même permettre à Israël, tout en étant soumis à Babylone, de continuer quelque peu son culte, sans se rebeller contre l'occupant, en quelque sorte. Ensuite, 597, vous avez la date ici, sur le tableau. En 597, deuxième déportation. Une rébellion est écrasée, Jérusalem est assiégée, pillée, le temple est saccagé. Il est question des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi qui sont donc pillés. Et 10 000 personnes vont être déportées. Les artisans, surtout ceux qui étaient capables de travailler le fer, parce qu'on avait besoin d'armes, de matériel pour la guerre, les soldats, tous ceux qui étaient en âge de combattre, tous les ministres, toutes les personnalités importantes, et le roi Joachim, avec un N, donc le successeur de Joachim, qui va être emmené. Seuls les plus pauvres sont autorisés à rester dans le pays. Deux Rois 24, versets 8 à 17, pour ceux qui veulent le noter. Et il y a, dans le lot, et ce n'est pas pour rien non plus que je vous le dis ce soir, dans le lot, il y a un homme jeune, peut-être plus tout à fait jeune homme, puisqu'il est âgé de 25 ans, il est de la famille des sacrificateurs, c'est un prêtre juif, il s'appelle Ézéchiel. Il est né en 622, nous ne retenez pas pour le moment, mais nous y reviendrons. Et il va bientôt, dans quelques années, en déportation, dans la région de Babylone. Il va commencer un ministère de prophète, 5 ans plus tard. Il sera âgé de 30 ans, et à l'âge de 30 ans, Dieu lui donne le feu vert et lui demande d'avoir un message extrêmement dur, extrêmement sévère, à cause du péché de Judas, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Ézéchiel. Et puis donc, déportation numéro 3, nous arrivons en 586, c'est plus grave, Jérusalem est assiégée pendant une année et demie, donc à partir de 587, puis brûlée. Les grands qui étaient encore là, ceux qui étaient restés, sont massacrés, les murailles sont démolies, on pille, on saccage le temple, on l'incendie, on déporte un nouveau groupe de captifs. Ceci est expliqué notamment dans 2 Chroniques 36, 11 à 21, ou dans 2 Rois 25, il y a abondance là. Et là encore, ce qui est très intéressant, c'est qu'au cœur de cet événement, un homme a été suscité par Dieu, dont nous parlerons de temps à autre, un personnage important, le prophète Jérémie. Jérémie ne va pas être déporté. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où cette déportation a lieu, Il a derrière lui environ, une bonne quarantaine d'années de ministère. Il a commencé son ministère en 627 avant Jésus-Christ, donc vous voyez, bien avant, en 627. Nous sommes en 587-86, n'est-ce pas? Donc 40 ans de ministère. Nous aurons l'occasion de lire des passages sur les prophéties de Jérémie, ce qu'il a annoncé, et vous verrez combien c'est important par rapport à Daniel. Et là, en 586, Jérémie, qui a déjà beaucoup souffert, qui a échappé je ne sais combien de fois à la mort, de manière miraculeuse, parce que Dieu lui avait fait des promesses, qui a vécu des moments extrêmement difficiles, qui a beaucoup pleuré, qui est vraiment l'homme de douleur, qui annonce la personne de Jésus-Christ, l'homme de douleur, par le type de ministère qu'il a eu, Jérémie est dans la chaîne des condamnés. Il est là, enchaîné en quelque sorte, avec ceux qui vont partir à Babylone. Peut-être pour y être exécuté, comme c'était souvent le cas. Et je peux imaginer ce qui se passe dans son cœur. Alors qu'il a été fidèle à Dieu pendant 40 ans, s'appuyant sur les promesses de l'Éternel pour vivre des moments si difficiles, et peut-être se disant dans le fond de son cœur, « Mais Seigneur, est-ce que tu serais en train de me lâcher ?» Et dans Jérémie 40, verset 1er, survient le miracle de la fidélité de Dieu. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, lui renvoyait de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Et le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs, etc. » Verset 4, « Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as... » Et tu as le choix. Tu peux soit venir avec moi à Babylone, tu seras bien gâté, entouré, tu n'auras pas de problème, ou bien tu peux rester ici. Et Jérémie va donc avoir à choisir, et finalement, il va donc rester. Mais ce qui est intéressant, n'est-ce pas, vous le constatez, c'est que pour chacun de ces moments difficiles à Jérusalem, il y a curieusement un personnage biblique important à la clé quelque part. Daniel, dans le paquet des premiers déportés, Ézéchiel dans le paquet des déportés suivants, et Jérémie qui ne sera pas déporté mais qui aura joué un rôle très important et qui va prouver que Dieu est fidèle dans les situations extrêmement difficiles. Voilà donc une première introduction générale qui nous situe le contexte historique. Alors parlons un petit peu maintenant de l'épreuve elle-même de ces quatre jeunes gens. Au moment de cette déportation en 605, Daniel est bien entendu un jeune homme. Un jeune homme âgé au maximum de 17 et 18 ans. Il n'a pas plus, on le sait parce que un certain nombre de textes montrent que à cette époque, dans les grands empires, les rois comme Nebuchadnezzar et d'autres choisissaient des jeunes qui étaient dans cette tranche d'âge, si vous voulez, de 14 à 18 ans, lorsqu'ils voulaient les former en vue d'occuper des places très importantes dans l'empire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est très simple, c'est que, là, je vous pose une colle ce soir, surtout à ceux qui connaissent tant soit peu l'histoire de Daniel, si je vous posais la question suivante, dans quelle tranche d'âge était Daniel lorsqu'il a été précipité sur les ordres du roi dans la fosse aux lions, Daniel chapitre 6. Moi je me souviens de l'époque où je m'occupais de ce qu'on appelle les écoles du dimanche dans les églises évangéliques, moi-même j'ai fait l'école du dimanche pendant un certain nombre d'années, même dans mon adolescence, et les photos ou les flanello que nous avions montré Daniel allant dans la fosse aux lions en brave petit jeune homme. Jusqu'au jour où j'ai réalisé en étudiant sérieusement la Bible qu'en réalité, quand Daniel est allé dans la fosse aux lions, il était largement octogénaire. Il avait plus de 80 ans. Ça veut dire que quand on étudie Daniel dans la fosse aux lions, c'est formidable de le faire dans une maison de retraite ou avec un groupe de personnes âgées. Ça m'est arrivé de traiter de Daniel 6 avec un groupe de personnes âgées, ça remonte le moral. De savoir que quand on est dans le quatrième âge, n'est-ce pas, Dieu est capable de fermer la gueule des lions devant une personne qui est déjà devenue extrêmement fragile, mais qui a au moins la sagesse que n'ont pas toujours les jeunes à 16-17 ans. Jamais le vieillard Daniel n'aurait sorti une brosse à dents pour brosser les dents des lions. Hein? Jamais. Il n'en est pas question. Pas de présomption orgueilleuse. Je suppose que Daniel était beaucoup plus sage que cela. Donc Daniel, s'il était âgé dans Daniel 6 de plus de 80 ans, nous avons même des textes qui indiquent qu'il a vécu plus longtemps. Il devait avoir 84, 85 ans dans la fosse lion. Il a peut-être vécu en tout cas nonagénaire. Vous êtes obligé de le placer à peu près dans cet âge-là. Si vous voulez lui donner un âge raisonnable par rapport aux événements de la fin de sa vie. Donc nous sommes en présence d'un jeune homme âgé de 17-18 ans maximum lorsqu'il devient l'innocente victime des bouleversements internationaux de son époque qui secouent en particulier son pays. Et le voici devenu prisonnier de guerre. Arraché à sa patrie, arraché à sa culture, arraché à sa famille, à son milieu plus que religieux, je dirais spirituel, et nous verrons pourquoi, qui pour lui était essentiel, et qui va se retrouver en quelques mois de voyage extrêmement pénible, à quelques 800 kilomètres de là à vol d'oiseau, en ligne droite, à travers le désert d'Arabie. Mais en réalité, par les routes de l'époque, de Babylone, vers Charan et redescendant, ou dans l'autre sens, n'est-ce pas, de Jérusalem, remontant d'abord vers le nord, repartant vers la région de Babylone, ce qu'on appelle le croissant fertile, qui était une région extrêmement riche, cela fait environ 1200 kilomètres. 1200 kilomètres, non pas en jet, ni même en bonne voiture 4x4 pour les routes du désert, ou que sais-je encore, mais en tant que prisonnier, jeune prisonnier, arraché, je dirais, au confort, lié également à son niveau de vie, certainement, puisqu'il était de famille noble, voire de race royale, mais nous y reviendrons. Long voyage, très pénible, par la route de l'Euphrate. On a pu quelque peu mesurer l'intensité du drame de Daniel lorsqu'il y a eu l'invasion du Koweït par l'Irak, puisque Babylone, c'est une partie de l'Irak, n'est-ce pas? Et il s'est passé, vous le savez, au Koweït, des événements qui ressemblaient étrangement à ce que notre ami, le jeune Daniel et ses compagnons, ont vécu dans leur chair. Puisqu'on le verra, il y a eu une sorte de changement forcé de nationalité, d'identité, etc. Des événements qui se sont produits il y a quelques années, puisqu'on a obligé les habitants qui ont été arrachés à leur terre, à changer d'identité. C'est allé extrêmement loin, vous voyez, combien les événements actuels rejoignent les événements de cette époque. Alors imaginez notre jeune ami Daniel et ses compagnons qui arrivent là avec leurs petites valises et toutes leurs souffrances aux portes de Babylone. Babylone mentionnée environ 300 fois dans la Bible. Non, hein, Babylone. Environ 300 fois dans la Bible, dont, et c'est intéressant, plus de la moitié simplement dans le livre du prophète Jérémie. Dans le livre du prophète Jérémie, vous avez 161 mentions de la ville de Babylone. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que dans les Lamentations de Jérémie, qui sont du même auteur, le nom n'y figure pas. Il y a un message tout à fait particulier à cause de cela, C'est volontairement, Dieu savait très bien ce qu'il faisait, pour que dans les lamentations de Jérémie, qui correspondent à l'année 586, à cette période terriblement difficile pour Jérusalem, Babylone est gommée. Pour certaines raisons, mais ce n'est pas notre sujet. Alors, parlons un petit peu de Babylone, parce que c'est très important. Nous allons voir, pendant 8 études, ou 7, Daniel et ses compagnons évoluer dans Babylone. Alors, il faut que nous essayions ce soir de découvrir Babylone comme ils ont pu, ces jeunes gens, harassés, fatigués, et le cœur palpitant et angoissé, en se disant, mais qu'allons-nous rencontrer? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'allons-nous devenir? Quel va être notre nouvel environnement? Alors, il faut que nous essayions de le découvrir avec eux, c'est important, et là, je peux vous dire que nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés comme nous allons le voir, mais je vous le dirai un peu plus tard. Disons simplement pour le moment que Babylone, Babylone la Grande, comme on l'appelle, a été fondée par un personnage qui est présent dans les Écritures, très tôt dans la Bible, puisqu'il est présent dans le livre de la Genèse, tout à fait au début, dans Genèse au chapitre 10. Il est question d'un vaillant chasseur devant l'Éternel qui s'appelait Nimrod. Le mot hébreu Nimrod veut dire le rebelle. Nimrod le rebelle, et c'est un homme qui a été rebelle, orgueilleux, opposé à l'Éternel. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre, Genèse 10, verset 8. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, et il y a aussi des textes anciens qui rejoignent cette pensée. C'est pourquoi l'on dit, le proverbe, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, d'autres villes, au pays de Shinéar. Vous avez remarqué que le pays de Shinéar, on le retrouve ici, dans Daniel 1, au verset 2. Il emporta les ustensiles au pays de Shinéar. Nimrod, le rebelle, fondateur de grands empires ou d'un grand empire, architecte possible, même probable, de la tour de Babel, dont il est question dans Genèse au chapitre 11. Et il faut savoir là aussi que, en hébreu, Babel et Babylone, c'est en réalité le même terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de dissocier la tour de Babel de la cité de Babylone. Les deux sont absolument liés, l'une étant dans l'autre, n'est-ce pas? Où est située Babylone, la Grande? Au cœur d'une des régions, et c'est important, les plus fertiles du monde ancien. La campagne autour de Babylone est irriguée à cette époque par de nombreux canaux qui amènent les eaux de l'Euphrate sur une distance de plusieurs kilomètres. D'ailleurs, la ville, Babylone, est elle-même traversée par cette grande rivière, l'Euphrate, tellement importante. C'est aussi le lieu de rencontre des caravanes qui viennent des quatre points cardinaux, et elle était devenue très rapidement une cité marchande de très grande importance. Nous avons dit que le père de Nebuchadnezzar va pas mal travailler pour faire de Babylone une belle cité. Mais il n'arrivera pas aux chevilles de son fils. Nebuchadnezzar va faire alors de Babylone une cité absolument prestigieuse, la capitale d'un immense empire. Et là aussi, vous pourrez regarder sur des cartes, peut-être même à la fin de votre Bible, si vous avez une carte qui est pourvue d'une Bible pourvue d'un certain nombre de cartes, ce qui est souvent le cas. Vous verrez que l'empire babylonien est allé de l'Arménie, dont on parle beaucoup actuellement, à l'Arabie, et de la Méditerranée au golfe Persique. Et Babylone était la plus grande et la plus belle capitale de son temps, certainement une des plus prestigieuses capitales de tous les temps. Ninive a été également une très grande capitale. Mais Babylone a été particulièrement brillante, tellement brillante d'ailleurs, que les historiens profanes, donc en dehors de ceux qui nous parlent dans les Écritures, les historiens profanes et sacrés ont beaucoup écrit à son sujet. Je pense à un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est bien connu, Hérodote. Hérodote, qui a certainement visité le site de Babylone, a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit et décrit Babylone. C'est assez impressionnant de voir tout ce qu'il raconte. D'ailleurs, Hérodote disait que la plaine de Babylone était l'une des plus fertiles de l'Antiquité. Lui-même, au 5e siècle avant Jésus-Christ, allait dans ce sens-là. Vous avez Pline, l'ancien, Xénophon aussi, et d'autres qui ont beaucoup écrit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé dans ce qu'on appelle le croissant fertile, toute cette zone de la Mésopotamie, Ur en Chaldée, Babylone, Ninive, plus haut, tout ce monde ancien qui fait palpiter le cœur des archéologues depuis le siècle dernier, on a trouvé au moins 250 000 tablettes d'argile dans l'ensemble de cette région qui part, si vous voulez, d'Israël, qui va au Liban, en Syrie, l'ancienne Phénicie, et qui ensuite remonte vers l'ancienne Assyrie, et qui descend vers la Mésopotamie, c'est-à-dire vers la région du Golfe Persique, avec la Babylonie notamment, et une partie de l'Empire Médo-Perse. Dans toute cette région qu'on appelle le croissant fertile, parce qu'elle était bien irriguée, donc extrêmement riche, on a donc retrouvé au moins 250 000 tablettes d'argile durant ces 150 dernières années. Et rien que pour la ville de Babylone, on a des milliers de tablettes. Des milliers de tablettes d'argile qui étaient les livres d'alors, si vous voulez, et qui nous indiquent quantité de détails très intéressants sur l'époque de Daniel et puis bien sûr d'autres époques. On peut aussi souligner ceci, et ça c'est quelque chose que vous pouvez noter pour en faire la lecture vous-même à la maison. Les prophètes de l'Ancien Testament, les grands prophètes, notamment le prophète Ésaïe et le prophète Jérémie, ont de la part de Dieu beaucoup écrit sur Babylone. Par exemple, vous lirez Ésaïe chapitre 13 et 14. Ésaïe chapitre 13 et 14. Alors Ésaïe, lui, se situe avant cela, à cheval sur la fin du 8e siècle et sur le début du 7e siècle, si vous voulez, grosso modo entre 720 et 680 avant Jésus-Christ. Mais lui, déjà, de la part de Dieu, à cette époque, donc bien avant, a déjà dit beaucoup de choses dans Ésaïe 13 et 14, au chapitre 21 aussi, et au chapitre 47. Vous avez quatre chapitres abondamment pourvus de descriptions très intéressantes sur Babylone, la Babylonie, son caractère et son avenir dans le plan de Dieu. Et puis alors Jérémie a deux chapitres phénoménaux. À ne surtout pas lire le soir avant de s'endormir, à moins qu'on ait envie de dormir vite, parce que ce sont deux grands chapitres, les chapitres 50 et 51, très denses, très longs. C'est pour ça que si on est très fatigué, on risque de s'endormir, mais qui sont palpitants pour la description de la mentalité de Babylone et de ce que Dieu dit au sujet de l'avenir de Babylone. Mais je n'en dis pas plus parce qu'on citera certains éléments. Donc j'ai cité Ésaïe 13, 14, 21, 1 à 10, surtout, chapitre 47 et Jérémie 50, 51. Si vous lisez déjà ces quelques chapitres, vous aurez une idée très intéressante sur le caractère de Babylone qui sous-entend les problèmes auxquels Daniel et ses compagnons ont eu à faire face. Comment vous décrire Babylone. J'aimerais ce soir, maintenant, avant de terminer, mettre un peu une casquette de guide et vous emmener en visite à Babylone pour essayer de voir comme Daniel les a vus, les rues de Babylone, les maisons de Babylone, les palais de Babylone. Bon, tout n'était pas encore construit au moment où Daniel arrivait avec ses compagnons en tant que jeune homme. Mais il allait voir un certain nombre des choses que je vais vous expliquer se faire peu à peu sous ses yeux. Et vous allez voir que ce n'est pas rien. Nous allons, pour pédagogiquement mieux comprendre la ville de Babylone, nous allons voir trois caractéristiques de Babylone. C'est-à-dire que tous les historiens, qu'ils soient profanes ou qu'ils soient prophètes dans les Écritures et qu'ils agissent alors un peu en tant qu'historiens, nous rapportant des situations, des faits, des caractères, se rejoignent pour aller dans trois directions précises lorsqu'ils évoquent la ville de Babylone. Premièrement, Babylone était une cité terriblement orgueilleuse. Cité terriblement orgueilleuse. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Oh, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'orgueil est matérialisé à Babylone. L'orgueil est matérialisé dans toutes sortes de réalisations prestigieuses. Vous savez qu'on peut jusqu'à un certain point se rendre compte si un président, un roi ou un dictateur fait de la mégalomanie, est orgueilleux, simplement en regardant un peu quelles sont les réalisations matérielles de son règne. Et si vous allez en Côte d'Ivoire et que vous voyez ce qui a été réalisé du temps de Oufouette Boigny, j'ai eu l'occasion de visiter certaines des réalisations de cette époque à Yamoussoukro et ailleurs, ça nous donne une idée quand même des ambitions, voyez. Et oui, c'est comme ça, il faut le dire, même quand ça ne plaît pas. Mais c'est vrai que le palais de Yamoussoukro, l'université aussi à Yamoussoukro que j'ai visité, c'est pas rien, c'est pas rien. Je me souviens de ces grandes avenues dans cette ville, larges avenues qui font penser aux avenues de Babylone avec des lampadaires et puis aucune maison tout autour, n'est-ce pas? Ça pose des problèmes à quelque part, ça c'est souvent le problème, même des sages qui gouvernent. Et nous pourrions prendre quantité d'autres exemples, y compris d'ailleurs dans notre pays, mais ne faisons pas de politique ce soir. Cité orgueilleuse, ça commence d'ailleurs dans Genèse 11, 4, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, l'histoire de l'érection de la tour de Babel. Ce désir de s'opposer orgueilleusement à Dieu, dans des réalisations qui n'étaient pas du tout dans son plan. Alors, décrivons un petit peu Babylone. Le pourtour de la cité, dans sa plus grande étendue, allait de 60-70 km, donc le périmètre, hein, 60-70 km à plus de 90 km suivant les écrivains, parce que les écrivains antiques même ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Hérodote est celui qui bat tous les records. Il va très très loin, lui, et il envisage la ville de Babylone comme ayant pratiquement la superficie de la ville de Paris intramuros, ce qui était énorme à cette époque. Mais même en évoquant un carré qui donnerait en périmètre plus de 60 km, c'est déjà important. Il y avait un double rempart. Là encore, il y a toutes sortes de mensurations qui circulent, ayant pour les uns 8 à 10 mètres d'épaisseur, d'autres vont jusqu'à 23 mètres, peut-être ne parle-t-il pas tout à fait de la même chose, 12 mètres de fondation, pour éviter les possibilités de travail de sape, qui, ce double rempart, entourait la ville, percé d'une centaine de portes de bronze, dont une monumentale qui se trouve à Berlin actuellement, et sans doute est-ce par cette porte que les déportés sont entrés dans la cité. C'est intéressant parce que dans Jérémie 51 verset 58, il est question des larges murailles et des hautes portes de Babylone. C'est intéressant. Alors que la découverte des ruines de Babylone et leur exploitation, n'est-ce pas, par les archéologues, ne date que de la tout à fait la fin du siècle dernier et essentiellement le début de ce siècle. Jusque-là, il y avait des gens dans le monde, y compris des théologiens, qui se moquaient, qui se gaussaient de toutes ces histoires, qui disaient que l'histoire de Daniel, tout ça, c'était un tissu de mensonges, de mythes, etc. Et puis on a découvert au début de ce siècle ces telles archéologiques de cette région qui sont absolument extraordinaires. Il y avait de larges rues perpendiculaires à la muraille qui partaient de ses portes, qui se coupaient à angle droit, et qui formaient des îlots d'habitation de 2, 3 ou 4 étages. Ces avenues faisaient, notamment pour certaines d'entre elles, quelques 8 kilomètres de long. Une voie sacrée conduisait au temple principal, le grand temple de Bel-Marduk, la divinité nationale, et elle était totalement pavée, large de 21 mètres, et à l'entrée de cette voie se trouvait une superbe stèle qui était destinée à rappeler au siècle à venir la gloire de son constructeur. « Je suis Nebuchadnezzar, roi de Babylone. J'ai pavé de pierre la route de Babel pour la procession du grand dieu Marduk. » Marduk, le Seigneur qui donne la vie éternelle. Voilà ce qu'on a retrouvé, par exemple. De chaque côté de cette route s'élevaient des murs de 7 mètres de hauteur, couverts de céramique bleue, avec en relief 120 lions de couleur fauve, alignés les uns derrière les autres, gueules entrouvertes sur plus d'un kilomètre. Ça devait être absolument extraordinaire. Le temple lui-même était, par ordre de grandeur, le second du monde, après le temple de Karnak, en Égypte. Il était situé au cœur de la cité, et dans la cour du temple, il y avait donc une tour sacrée, ce qu'on appelle une ziggourat, d'environ 90 mètres de hauteur, qui comprenait 7 plateformes concentriques, la 7e portant un temple qui était dédié à Bel-Marduk, à cette divinité. Il y avait une grande statue d'or, d'ailleurs, qui pesait un certain nombre de tonnes d'or. C'était la plus haute tour du monde de cette époque. C'était aussi un observatoire astrologique. Et ça, c'est intéressant, parce que ça nous donne quelques idées des problèmes liés à la tour de Babel, sur laquelle il y avait certainement, là aussi, un temple. C'était une opposition religieuse aussi à Dieu. Le désir d'évincer Dieu, n'est-ce pas, et de se tourner vers des divinités. Le temple contenait une image en or de Bel, ainsi qu'une table d'or, poids total 22 tonnes. 2 lions d'or, une autre table d'or de 13 mètres sur 5, une figure humaine en or, massif, haute de 6 mètres, toutes sortes d'éléments de cette époque. On dit que 85 millions de briques portant tout le sceau royal ont été utilisées pour construire cette tour de 90 mètres de haut. Alors c'est intéressant de voir que Jérémie, dans Jérémie 51,13, dira « Toi qui as d'immenses trésors, toi qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. » Donc là, c'est intéressant, Jérémie va toucher du doigt un des problèmes de l'orgueil de Babylone au niveau de ses possessions, de son or et de sa cupidité. On sait que à cette époque et après Daniel, peu de temps après, il existait un système de banque en Babylonie très très efficace. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, une banque était tenue par Marachou et ses fils, et on a les noms. Et si cela peut nous rassurer au niveau des taux d'intérêt, cette banque pratiquait des taux d'intérêt à 40%. Et on a des listes et on sait que parmi les clients de cette banque, il y avait des juifs, ce qui rejoint encore les textes bibliques. Et puis il y a quelque chose qui nous intéresserait beaucoup, il y avait des jardins suspendus. Il y avait des jardins suspendus, une des 7 merveilles du monde ancien, d'immenses parterres établis sur des terrasses voûtées qui s'élevaient les unes au-dessus des autres jusqu'à la hauteur des murailles de la ville. Et Nebuchadnezzar a fait ça pour son épouse favorite, parce qu'elle venait d'une région montagneuse en Médie, et que là, dans la plaine de Babylone, elle s'ennuyait à cause de la bosse de cette région, n'est-ce pas ? C'était tellement plat. Alors Nebuchadnezzar a voulu lui faire plaisir et il a essayé de reconstituer un petit peu un petit relief bien couvert de végétation et de verdure et de fleurs pour cette épouse favorite. Il y avait un réservoir au sommet servant à l'arrosage qui était alimenté par des pompes hydrauliques amenant l'eau du fleuve. Vous voyez qu'on était moderne à cette époque déjà. L'Euphrate, je l'ai dit, coulait au milieu de la cité. Il y avait un pont qui l'enjambait. Il y avait même un tunnel sous le fleuve, large de 5 mètres et de haut de 4. Et là encore, il est intéressant de voir ce que les prophètes disent. Les prophètes de l'Ancien Testament l'appellent la cité d'or, la reine des royaumes, la fière parure des Chaldéens, une coupe d'or dans la main de l'Éternel, la louange de toute la terre. Vous trouverez tout ça dans les textes que je vous ai indiqués d'Ésaïe et de Jérémie. Et quand Nebuchadnezzar la contemple devant le palais royal, vous connaissez, vous qui connaissez le livre de Daniel, dans Daniel 4, verset 30, hein, quand il voit ces réalisations prestigieuses, il s'écrie, Daniel 4, 30, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» Voyez, c'est beau texte, hein. Et ça lui vaudra d'être frappé, il aura été prévenu d'ailleurs pendant une année au préalable, d'une maladie mentale, une sorte de démence toute particulière, assez rare, mais dont des cas ont existé, qu'on appelle la lycanthropie, lycanthropie qui veut dire l'homme loup, mais c'est une maladie qui fait que soit on pense être devenu un loup, ou encore un animal qui broute. Et c'est ce qui est arrivé à ce grand roi. Il le raconte lui-même, puisque pendant 7 ans, il a été frappé de cette maladie et qu'il a laissé ses ongles pousser, ses cheveux pousser, et il allait brouter dans les jardins de son palais royal à Babylone. Vous lirez Daniel 4, mais nous aurons l'occasion d'y revenir ensemble. Dans Jérémie 50, verset 29, c'est Dieu qui parle. « Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel. » Jérémie 50 encore. Voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur « Moi et rien que moi » Ésaïe 47, verset 8. Ou encore Ésaïe 14, verset 13. « Tu disais en ton cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » L'ivresse orgueilleuse d'un roi de Babylone qui est un type de Satan lui-même. Dieu en fait un type de la puissance des ténèbres. Un roi de Babylone. Ça, c'est la première caractéristique, l'orgueil. L'orgueil de cette gigantesque cité. Deuxième caractéristique, Babylone, capitale de l'occultisme mondial. Nous devons aux Babyloniens, aux Chaldéens, très exactement, les fondements de nos mathématiques. Ils ont créé les sciences astronomiques, mathématiques, avec l'algèbre et la géométrie. Ils ont divisé le cadran solaire. Ils étaient capables de fixer le moment d'une éclipse. Ils ont réussi même à calculer la durée d'une année, je crois, en se trompant de moins d'une demi-heure, ce qui était extraordinaire à cette époque. Et pas année lunaire, pas en année lunaire qui était plus courte, mais dans nos années à nous. Mais il faut savoir que c'était avant tout à des fins occultes, pour soi-disant prédire l'avenir, que les astrologues étudiaient le mouvement des astres, ce qu'on appelait à l'époque la lampe des dieux. La Babylonie est le berceau de l'astrologie. Et vous savez qu'il faut faire aujourd'hui de manière très forte la distinction entre l'astronomie, science noble, et l'astrologie avec laquelle tout bon astronome ne veut absolument rien avoir à faire. L'astrologie étant un art occulte divinatoire. Et bien sûr, il est très facile de démontrer à la fois l'aspect de vanité, de vide, de vacuité, et aussi le danger de se mettre sous la tutelle de la puissance des ténèbres d'une manière toute particulière. En tout cas, les tablettes découvertes par milliers révèlent la place importante de l'astrologie, de la sorcellerie, de la divination, de la magie. Dans Daniel 1,4, il est indiqué qu'à ces jeunes gens, on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens, ou la littérature et la langue des Chaldéens. Et le mot chaldéen revient au chapitre 2. Et au verset 2, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. On sait que les chaldéens, à l'époque de Daniel, constituent la noblesse de Babylone. Ce sont les savants, ce sont les conseillers attachés à la cour, c'est un petit peu le cerveau royal à Babylone, et ils sont experts non seulement en philosophie, en mathématiques, mais aussi en pratique magique. Ils écrivent beaucoup, ils écrivent des ouvrages sur des sujets d'incantations magiques, de mythes, de légendes, de présages, des hymnes, des formules magiques applicables dans des techniques tout à fait variées, dans la verrerie, les mathématiques, l'astrologie, etc. Et puis ils sont par-dessus tout les spécialistes des rêves. Ils écrivent des gros ouvrages dans lesquels ils décrivent tous les rêves, surtout les rêves des souverains, dans tous les détails, d'immenses ouvrages, et puis ensuite ils comparent les rêves des uns et des autres, ils font des recoupements pour essayer d'en tirer des conclusions, d'interpréter et d'expliquer tous les rêves. Et la matière principale de la littérature des Chaldéens, dont il est question au verset 4, il faut le savoir, la matière principale c'est l'astrologie et les arts occultes. Il y a d'autres éléments, hein. Il y a les mathématiques, l'histoire, l'astronomie, l'astrologie, l'alchimie et la magie. Tout ça fait partie de cette littérature chaldéenne. Vous lirez dans Ésaïe 47, dans les versets 8 à 15, tout un texte qui décrit très bien les pratiques de magie. Et nous savons que Dieu interdit de la manière la plus solennelle de telles pratiques qui mettent directement les hommes en contact avec les démons. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, verset 31. Vous imaginez donc le monde dans lequel notre ami Daniel est en train d'entrer ? Lui qui sait, on le verra, que Dieu aborde ces pratiques, précisément parce qu'elles nous mettent en contact direct avec la puissance des ténèbres, avec le menteur, avec le meurtrier, avec celui qui paye ceux qui le suivent en monnaie de singe, qui les soulage apparemment au départ pour les plonger dans des esclavages beaucoup plus terribles ensuite, n'est-ce pas ? Voilà le monde dans lequel Daniel entre, et il nous reste simplement à voir le dernier aspect. Nous avons vu l'orgueil, nous avons vu l'occultisme. Troisième aspect, cité violente et corrompue. Je pense à ce qu'a écrit André Chouraki, ce traducteur un peu particulier des textes bibliques, qui écrit que Babylone était peut-être le plus puissant et le plus cruel des empires de l'Antiquité. Violence cruelle, despotisme, dépravation des mœurs, qui marque profondément cette cité. On a compté dans la ville de Babylone quelques 53 temples païens, 180 autels qui étaient dédiés à Ishtar, et Ishtar c'était l'Astarté babylonienne, et si vous entendez le mot Astarté, vous savez qu'on lit toujours Astarté aux déviations sexuelles, à la prostitution sacrée. Il se passait donc dans la ville de Babylone des choses absolument abominables. Elle était la citadelle du désordre de la sexualité, au point qu'elle est devenue dans la Bible l'image de la corruption. C'est intéressant de constater que la société babylonienne comptait au moins 3300 noms divins. On a recensé 3300 noms de divinités. Voyez un petit peu dans quelle société complexe entrait notre ami Daniel. Et Jérémie dira dans Jérémie 50, 38, écoutez ça, « C'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. » C'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. Je vous cite simplement quelques clichés des prophètes pour parler de la violence de Babylone. Ésaïe 14, versets 4 à 6. L'oppresseur n'est plus. La tyrannie a cessé. L'Éternel a brisé la massue des méchants. Le bâton des dominateurs. Tout ça, c'est une description de Babylone. Jérémie 4, verset 7. Le destructeur des nations est en marche. Nous avons lu ce passage en introduction. Jérémie 50, verset 23. Le marteau de toute la terre. Jérémie 51, verset 25. La montagne de destruction. Un autre texte encore, 51, verset 5. Le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël, rempli de crimes. Chapitre 51, verset 34. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a disloqué, il a fait de moi un vase vide, tel le dragon, il m'a englouti. Un autre texte dira, ils sont cruels et sans miséricorde. Et puis, il y a un personnage sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, c'est le petit prophète Habacuc. Et vous verrez pourquoi nous reviendrons à Habacuc. Habacuc est de cette époque-là, vous voyez notre tableau, vous placez Habacuc entre ces deux dates, c'est-à-dire aux alentours de 609, 608, ou au plus tard 607 avant Jésus-Christ. C'est intéressant, on a là un élément de plus. Et Habacuc, qui a donc exercé son ministère sous le règne de Joachim, qui est là, présent dans Daniel au chapitre 1er et dans les tout premiers versets, Habacuc commence par être mécontent. Il est dégoûté de l'état de Jérusalem, de Juda, du désordre, de la manière dont on vit dans la corruption, dans la désobéissance à l'Éternel, les juges... Juge complètement de travers, tous ceux qui ont une position d'autorité sont complètement corrompus, etc., etc. Et Habacuc est vraiment révolté. Et il le dit, mais je ne comprends pas, Seigneur, comment tu supportes, toi le Dieu saint, le Dieu juste, comment tu supportes que ton peuple atteigne un tel niveau de désordre, de désobéissance, d'iniquité, de rébellion. Verset 4, la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, le méchant triomphe du juste, l'on rend des jugements iniques. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu te tais? Pourquoi tu n'interviens pas? Et il attend la réponse. Et Dieu lui donne la réponse. Dieu lui donne la réponse et il lui dit ceci, jetez les yeux parmi les nations, regardez. Soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, et voilà, les Babyloniens, hein. Je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Voyez que, de la part de Dieu, Habacuc annonce les événements qui vont se passer en 605, en 597, en 586. Ça se prépare. Ça commence à bouger du côté de Babylone. Il se sont déjà passés des événements un peu étranges. Et Habacuc entend l'Éternel dire, attention, j'interviens. Et je vais me servir précisément de ces Chaldéens, de ce peuple terrible, formidable, verset 7. Hein, il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, il assemble des prisonniers comme du sable, il se moque des rois. Les princes font l'objet de ses railleries, il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre, il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable. Et Dieu termine par cette phrase, sa force à lui, voilà son Dieu. Sa force à lui, voilà son Dieu. Babylone, un peuple sanguinaire, impitoyable, sans aucun respect pour la loi morale. Voilà ce que Daniel et ses jeunes gens découvrent en arrivant à Babylone. Il fallait le savoir. L'orgueil, l'occultisme, la violence, la pourriture morale, en plein développement, qui vont vers leur sommet, de pair, ensemble. Voilà leur nouveau cadre de vie. Et en terminant, je dis simplement ceci. Le système babylonien va se mettre en branle pour les modeler à sa guise, pour les absorber, nous dirions aujourd'hui pour les babyloniser. Le rouleau compresseur va essayer de les dépersonnaliser. Ils vont subir un matraquage idéologique, religieux, moral, philosophique, occulte, terrible. On va d'abord, nous l'avons vu, leur imposer des noms, leur imposer, le texte est fort. Pourquoi est-ce qu'on leur impose des noms païens? Des noms de divinité babylonienne de surcroît. Tout simplement pour les amener à renier leurs antécédents spirituels. C'est une naturalisation forcée, mais aussi tout un changement d'autorité. On veut modifier leur personnalité, leur destinée, leur comportement religieux. Ça s'apparente au lavage de cerveau pratiqué dans certains pays totalitaires et qui commence à toucher de plus en plus nos pays d'Europe occidentale, encore entre guillemets libres. Ils sont livrés aux caprices et au bon vouloir d'un dictateur cruel qui fait trembler le monde parce que Nebuchadnezzar n'était pas n'importe qui. Ils sont obligés d'étudier les matières enseignées à l'école nationale d'administration, l'ENA de Babylone, et c'est pas rien. Sciences, mathématiques, grammaire babylonienne, mais aussi astrologie comme matière principale, et les autres arts occultes. On va certainement flatter leurs ambitions juvéniles, on va leur faire miroiter des postes à haute responsabilité. Mais ils seront surtout menacés de mort, jalousés, calomniés, trahis, épiés. Ils vont connaître une situation difficile faite de pressions énormes, de grandes tentations. Et ce qui est fantastique, c'est qu'ils vont sortir vainqueurs. Ils vont sortir vainqueurs de ces épreuves, et ils vont même, ces jeunes gens, créer un impact impressionnant jusque sur ce potentat qui s'appelle Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi il est important que nous nous penchions sur leur histoire. Alors demain soir, à partir de cette visite archéologique, touristique, guidée, nous allons commencer par actualiser. Oh, nous n'allons pas nous acharner sur l'actualisation. Vous devinez qu'elle est facile après ce que nous avons dit ce soir. Et nous n'irons pas nous plonger dans une multitude de statistiques sombres sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Inutile de provoquer des dépressions. Nous avons déjà tellement tendance à être découragés quand nous ne connaissons pas le Seigneur, n'est-ce pas? Mais on actualisera quand même à la lumière des Écritures, pour ensuite aller précisément dans la suite de ce chapitre premier du livre de Daniel vers la manière dont ils réagissent. Et nous nous poserons ensemble la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été capables de réagir de cette manière? Est-ce que nous avons dans la Bible des indices qui nous permettent de comprendre pourquoi ces jeunes gens, pourtant si fragiles, si minoritaires, dans une situation aussi sombre que celle de notre temps, d'aujourd'hui, dans le monde moderne, dans cette fin du XXe siècle, comment ont-ils été rendus capables, non seulement de tenir le coup? Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur, parce que la Bible, ta parole, est un livre vivant. Ce n'est pas un livre couvert de poussière qui nous conduit dans des raisonnements bizarres, théoriques, simplement philosophiques, inaccessibles à nos besoins humains quotidiens. Non, nous te bénissons parce que ta parole correspond vraiment à ce que nous avons besoin dans notre situation présente. Et nous te remercions pour ce miracle de ces textes tellement anciens et pourtant tellement modernes. Merci d'avoir mis ce livre de Daniel dans la Bible. Merci pour tout ce que nous savons de son époque, par l'histoire, par la géographie, par ce cri des pierres que représente l'archéologie. Merci pour tout ce que tu nous expliques et qui rend ce début du livre de Daniel tellement vivant, qui nous permet de mieux comprendre combien ça a dû être difficile pour Daniel et ses compagnons, vivre une telle situation. Mais merci, parce que nous avons déjà ce soir entrevu plus qu'une lueur d'espérance. Merci de ce qu'il est donc possible aujourd'hui, dans ces temps si difficiles, si chaotiques, si désespérants à vue humaine, merci de ce qu'il est possible de vivre une merveilleuse espérance et d'être réjoui dans nos cœurs par la découverte et la marche avec le Dieu de Daniel, qui est le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant et vrai aujourd'hui, tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merci de nous visiter, de nous atteindre, je te le demande, pour chacun d'entre nous ce soir. Bénis notre retour dans notre foyer, bénis notre repos de la nuit, merci de continuer à parler à nos cœurs et merci de nous préparer déjà à vivre ensemble la suite de ce week-end. Renouvelle les forces de chacun, renouvelle les capacités aussi intellectuelles de chacun. Merci parce que tu veux t'adresser à notre personne tout entière et mobiliser toutes nos facultés dans l'écoute de ta parole. Nous te bénissons et nous t'aimons, ô notre Dieu, pour Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Amen.